Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui vit avec son temps, puisque dans un monde ubérisé où on note les chauffeurs de taxi, les livreurs de pâte taille crevette et même les médecins, il était temps qu'on puisse aussi noter les journalistes. Chaque après-midi, dans l'arène surchauffée du studio Coluche, ils s'affrontent au service de votre culture G. Un seul décrochera la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Non plus ce vieux modèle miteux qu'on avait acheté 10 balles sur le net et qui a certainement contribué à l'arrivée du coronavirus en France, mais cette somptueuse couronne réalisée à la main par Élodie Ratto, une créatrice fan de l'émission qui a eu la gentillesse de nous l'envoyer. C'est très mignon.
C'est adorable. Oui.
Un journaliste connaîtra donc la gloire, deux autres limiteront la casse. Quant à celui qui finira dernier, il connaîtra la même solitude que ce confrère d'une radio publique le jour de la mort de Carlos.
Pitre, bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage.
Vous votez via Twitter pour départager nos quatre champions, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple ou plutôt sextuple aujourd'hui puisqu'ils sont deux. On est très heureux d'accueillir une réalisatrice en lice pour les Césars, Anissa Bonnefond, et le génie français de la mode, Olivier Rousteing. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Anissa, Wonderboy, votre documentaire sur Olivier Rousteing, directeur artistique de la Maison Balmain, est en lice pour le César du meilleur doc. On y découvre un Olivier Rousteing très différent de celui qu'on connaît sur son fil Instagram, pour ceux qui le suivent, entre défilé et beautiful people, puisque ce doc raconte le long chemin d'un enfant adopté, né sous X, pour retrouver ses parents biologiques. Alors, nous, on a vu le produit fini, si j'ose dire, oui, avec Eva, cet incroyable doc qui se pose là vraiment comme une œuvre et une réflexion aussi autour du statut des enfants nés sous X. Mais vous, Olivier Rousteing, comment vous avez décidé de vous lancer là-dedans? Déjà, ça doit être compliqué de se lancer à la recherche de ses racines, mais en plus, sous l'œil d'une caméra, c'est doublement compliqué.
Oui, c'était vraiment pas évident. Je dois dire que j'avais essayé de commencer à faire cette recherche à l'âge de 16 ans. J'étais pas capable parce que j'ai découvert que j'avais un second nom, un autre nom. J'étais pas Olivier Rousteing.
Et ça avait été trop dur. Ça avait été là.
Ouais, c'était vraiment dur. Et en fait, quand j'ai rencontré Anissa dans mon parcours, finalement, elle m'a proposé ce documentaire et donc la première chose que j'ai dite, c'est que j'étais pas capable parce que j'avais peur et surtout parce qu'en plus je me disais normalement un designer il a un documentaire quand il est en train de mourir ou quand il est en fin de carrière donc à 30 ans avoir un docu j'étais là ok et en fait finalement j'ai trouvé ça important parce que je me suis dit qu'avec grâce à la caméra et grâce à Anissa je signe un pacte pour pas abandonner ma recherche et c'est comme ça qu'on a continué à vivre notre aventure je crois.
Alors, on va évidemment parler de ce documentaire d'Anissa Bonnefond, ainsi que de votre parcours phénoménal, Olivier Rousteing. Juste le temps de vous présenter mes camarades. À mes côtés, impossible d'imaginer notre émission du jour sans elle. Elle n'est pas mode, elle est la mode. Deux femmes auront marqué l'histoire du style, Coco Chanel et Eva Rock.
Ah ouais.
Le parallèle avec Olivier Rousteing saute aux yeux, et il a fait souffler un vent de modernité sur la haute couture, et elle fait souffler un vent de modernité sur la radio, notamment en reprenant les codes des jeunes et leurs expressions. Vous êtes prête, Eva?
À fond les ballons.
À fond les ballons, super. Cool, Eva.
On est lundi, Mathieu Noël.
Vous êtes toujours notre expert média.
Bah, je sais pas, là, parce qu'on est encore que lundi. Donc, si vous commencez comme ça la semaine, ça va être compliqué.
Vous nous direz ce qu'on zappe et ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur les écrans. Mais d'abord, Anissa, Olivier, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. À ma gauche, touchante lanterne rouge de notre championnat, Virginie Fulpin continue malgré tout d'y croire, mais mollement. Il faudra, Olivier, que vous lui donniez des cours de niaque, car elle a tendance à un peu trop vite se résigner, comme le prouve cet échange hors antenne vendredi avec son collègue Alain Sirou.
Je me suis mis là, mais je sais pas.
Oh, bon.
J'ai pas de place à titrer.
Ouais, moi non plus, hein.
À part la dernière du classement.
Et oui, Olivier Rousteing a pris l'ascenseur de la réussite, vous le toboggan de la loose. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour.
C'est terrible.
Premier ou dernier, ça sert à rien d'être dans le ventre mou.
Comme quoi une vie se joue vraiment à pas grand chose. Alors vous êtes notre éditorialiste sport aujourd'hui, avec quel sujet allez-vous tenter de sortir de la zone relégable?
On va parler du tennis, qui est une nouvelle innovation, puisque la semaine dernière, lors du tournoi féminin de Dubaï, on a essayé en fait le coaching depuis les tribunes. C'est-à-dire que normalement au tennis, c'est un joueur contre un autre. Et là, les entraîneurs avaient le droit de s'exprimer et de coacher leurs joueurs pendant le match. Et ça, comme ça, ça paraît assez banal, sauf que ça peut tout changer pour ce sport.
Alors moi, je suis pas très fort en tennis, mais déjà, je pensais que c'était déjà le cas. Je pensais que c'était possible.
Non, pas du tout. C'est le cas en Coupe Davis ou en Fed Cup. Mais d'accord, normalement, pas pour les tournois traditionnels.
À ses côtés, Anissa, Olivier, de tous les journalistes d'Europe 1, il était probablement le moins qualifié pour se retrouver face à vous aujourd'hui. aujourd'hui. En effet, l'univers de la mode lui est à peu près aussi étranger que l'univers de l'échangisme au Dalai Lama. Pour vous situer, hier encore, il pensait que Roberto Cavalli était l'avant-centre du Milan AC et Balmain une entreprise sidérurgique. Quand je lui ai dit, Olivier, que vous aviez plus de 5,8 millions d'abonnés sur Insta, il a déclaré en soupirant.
Twitter, Facebook, tous ces trucs-là.
Moi, j'y suis pas. J'en parle, mais...
Eh oui, il fait semblant. Bonjour, Axel de Tarlet.
Bonjour, Mathieu.
Vous êtes l'expert éco d'Europe 1. Aujourd'hui, c'est d'une puissance économique non financière que vous nous parlez, la puissance de la langue.
Exactement. Vous savez que le français est la langue qui a le vent en poupe en ce moment. Et selon The Economist, c'est même la langue up-to-date qu'il faut apprendre pour être un winner dans le monde.
Oh, on dirait message à caractère informatif, un truc de canal, vous savez, avec les fausses pubs.
Vanter le mérite du français avec des mots anglais, c'était ça.
Oui, mais j'ai compris. Mais j'ai compris.
Je précise. Hein.
J'ai compris, mais Axel, je voulais déjà préciser, ne soulignez pas l'humour. Vous faites votre blague et ne revenez pas dessus. Le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Anissa Bonnefond, la réalisatrice, et le créateur Olivier Rousteing qui nous accompagne cet après-midi pour fêter la nomination au César de Wonder Boy, ce documentaire que vous signez Anissa et qui évoque la recherche, le combat d'un enfant né sous X pour retrouver ses parents biologiques, ou du moins comprendre ce qui s'est passé. Olivier Rousteing, rappelle que vous êtes le directeur artistique de Balmain. Vous êtes en plus en pleine préparation de votre nouvelle collection. Alors déjà, je vous pose la première question. Comment vous faites pour être avec nous cet après-midi? Oui. C'est incroyable.
Parce que je suis fan de l'émission. Ah, je suis fan de vous. J'ai pas été payé pour le dire.
C'est beau, ça c'est beau.
Non, je suis fan et donc j'avais envie d'être avec vous. Je suis en préparation de défilé qui aura lieu vendredi. Donc voilà. Et ce soir, on a un dîner à l'Elysée.
Vous enchaînez Mathieu Noël.
Mais voilà. Vendredi, c'est votre journée parce que le défilé, c'est le matin. Ouais, les Césars, le soir avec vous, Anissa. Voilà. Donc ça, c'est la journée qui peut tout changer. C'est
ouais.
Ça.
Ouais, c'est absolument ça. C'est une grosse journée tournant en fait pour nous deux, ouais. Pour moi le matin et pour nous deux le soir.
Ouais, exactement.
J'ai envie de dire à nos auditeurs qu'on a parlé un peu avant l'antenne. Vous êtes plus que réalisateur et sujet du documentaire. Vous êtes, on peut le dire, ami.
Ennemi.
Vous étiez amis à un moment en tout cas pour créer un documentaire pareil et accepter la caméra, accepter le regard d'Anissa sur vous dans des moments particulièrement intimes. Il y a eu une connexion qui s'est faite avant le tournage du documentaire.
Pendant en fait.
Pendant.
On l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Non, on l'a. Ça s'est créé en fait petit à petit. Nous, on s'est rencontrés avec Olivier et on se connaissait pas du tout. Et en se rencontrant, on a décidé de partir dans cette aventure ensemble. Et donc notre lien s'est créé petit à petit au sein du tournage. Et j'avais envie, même dans le film, de montrer en fait moi le visage d'Olivier que je connaissais pas trop au début. Donc on est plus distant et petit à petit, je rentre de plus en plus. Mais c'est vraiment finalement ce que le spectateur ressent, mais ce que moi j'ai ressenti aussi en filmant Olivier.
On connaît de mieux en mieux Olivier, comme vous.
Oh, exactement.
En fait, le spectateur est à la même position.
Et c'est toujours à voir sur mycanal.fr.
Évidemment. Ils se sont trouvés, ça a donné un formidable documentaire en lice pour les Césars. Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, certaines personnes ont ce don merveilleux de nous faire aimer le sport rien qu'en nous en parlant.
Parce que, en définitive, le sport, une histoire qu'il faut raconter.
Non.
C'est pas simplement des matchs que l'on découvre.
Oui, monsieur le président. Non.
C'est, en définitive, des feuilletons qui se passent sous nos yeux.
On est un peu pressé,
peuvent connaître des gloires.
Des gloires, oui, bien sûr, mais on s'en fout. Coupez-le. Heureusement, Europe 1, on a Virginie Fulpin qui nous parle aujourd'hui de bouleversement à venir dans le tennis. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Elle signe un documentaire nommé au César vendredi, dont il est le héros, la réalisatrice Anissa Bonnefond et le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, sont nos équipiers sauvages cet après-midi. Le doc s'intitule Wonder Boy. On continue d'en parler juste après la chronique de celle qu'ici on surnomme Wonder Girl. Virginie Fulpin est notre première concurrente du jour et, de vous à moi, sa place dans notre championnat, dernière, reflète assez peu son incommensurable talent. Car voilà une journaliste sportive intelligente, documentée, malicieuse, qui sait raconter une histoire et qui, en plus, ce qui ne gâche rien, sait imiter le rire de Patrick Sébastien. Je sens, Olivier, que vous aimeriez la faire défiler, mais non. Elle est sous exclu Europe 1, elle défilera pas pour Balmain. Alors, Virginie, avec quel sujet allez-vous tenter de subjuguer nos auditeurs aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler de tennis, et vous savez que normalement, le tennis, ça se joue à un contre un, chacun d'un côté du terrain, et puis l'entraîneur, il est en tribune. Son travail, c'était avant, lors des séances d'entraînement, des séances de préparation psychologique.
Il peut rien faire, il voit
vidéo.
Son poulain en plein naufrage, alors, il peut pas intervenir.
Justement, parfois, il intervient, on voit des petits signes comme ça, genre pousse plus la balle, mais normalement c'est interdit. Donc l'arbitre fait comme s'il ne voyait pas les gestes comme ça. Mais là, ce qui a été tenté la semaine dernière au tournoi féminin de Dubaï, c'est d'autoriser les entraîneurs à parler directement à leurs joueuses, c'est-à-dire à dire par exemple, mais arrête de pilonner sans verre, va plutôt sur le coup droit, c'est-à-dire...
Mais ils n'ont pas des signes, je ne sais pas, ils font ça, ça...
Oui,
mais ça, c'est bien en radio quand je fais des signes.
Bon, et donc, ils essaient ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont réclamé ça. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que certains ont envie d'être un peu plus vus, on va dire. Hein. Celui qui a beaucoup poussé, notamment pour ce coaching, c'est Patrick Mouratoglou, qui est l'entraîneur de Serena Williams. Et... il aime bien les caméras, on va le dire, quand
ouais,
même.
Patrick, et donc, c'est vrai qu'on connaît un peu, il aime bien les caméras.
Il aime bien les caméras et en même temps, c'est un excellent entraîneur et il veut montrer à tout le monde sa façon de travailler. Alors, le problème que ça pose, en fait, c'est que moi, je pense qu'on va se retrouver avec uniquement des joueurs ou des joueuses très costauds sur un court, tous sur le même modèle et qui n'auront plus besoin de réfléchir puisqu'il y aura quelqu'un en tribune qui le fera pour eux et qui leur dira...
moins des stratèges eux-mêmes.
Mais, oui. En fait, je pense par exemple au joueur Gilles Simon, le français Gilles Simon, qui n'est pas très costaud, hein, c'est quelqu'un d'assez mince mais qui réfléchit beaucoup, c'est un vrai tacticien sur le court et il a gagné beaucoup de matchs et des tournois grâce à ça parce que justement, il savait intelligemment interpréter le jeu de l'adversaire. Alors que là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il faudra des costauds et qui ne seront plus que les bras armés de ces entraîneurs.
Ça, c'est votre avis, Virginie, ou ça divise le monde du tennis ?
Ça divise beaucoup, beaucoup le monde du tennis. Hein. Ce que je dis, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais en fait, c'est surtout mettre fin à l'hypocrisie. Parce que, comme vous le disiez, il y a des petits gestes, parfois, que l'arbitre fait semblant de ne pas voir. Donc ça, on peut le dire, effectivement. Mais oui, mon avis, c'est que ça va s'uniformiser. Et puis, en plus... en fait, les joueurs et les joueuses, ils vont être de plus en plus en situation de dépendance, je dirais, vis-à-vis de l'entraîneur. Et je ne vous parle même pas du fossé aussi qui va se creuser entre les meilleurs mondiaux, qui vont avoir 15 personnes dans les tribunes pour leur expliquer comment il faut jouer, qui vont tout analyser sur l'ordinateur et qui vont forcément gagner quelque chose après. Mmh. Et puis ceux qui sont dans les profondeurs du classement, qui ont peu de gens autour d'eux, puisque ça coûte trop cher, et qui eux vont se débrouiller tout seuls et donc perdre encore plus de matchs.
Eva Rock.
Juste une petite question. Les entraîneurs, là, quand ils ont fait le test à Dubaï, ils étaient toujours en tribune ou ils étaient à côté des
ils
joueurs
toujours en tribune, parce que c'est d'accord. Un premier test. Hein, donc il va sans doute y en avoir d'autres. Ils essaieront aussi, je pense, juste à côté, comme c'est le cas en Coupe Davis ou en Fed Cup. Mais là, ils étaient encore en tribune.
C'est bizarre. Hein,
c'est assez étrange. Puis, mais le tennis change beaucoup en ce moment. Vous savez, on parle de la Coupe Davis, de la Fed Cup, qui ont changé de formule. Donc, ils cherchent en fait des solutions pour intéresser plus de monde, pour que ce soit plus interactif aussi, pour que les jeunes, notamment, s'intéressent plus au tennis, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui.
Olivier Rousteing, votre côté filiforme est travaillé par le sport ou c'est Dame Nature qui vous a donné ce corps ?
On dirait que Dame Nature a été très généreuse avec moi, mais aussi je vais au sport tous les matins.
Ah ouais, d'accord. Dame Nature est là, mais vous assurez derrière. Merci Virginie Fulpin, votre chronique aura-t-elle séduit nos auditeurs ? La réponse tombera juste avant 18h.
Europe 1.
Qui est vraiment Olivier Rousteing, le wonderboy de la mode française ? Comment Anissa Bonnefond l'a-t-elle convaincu d'accepter la présence d'une caméra alors qu'il se lançait dans la recherche de ses parents biologiques ? Autant de questions auxquelles nous apporterons peut-être, je dis bien peut-être, des réponses dans la séquence qui suit. Car n'oublions jamais qu'avec Eva en interview on est costaud, mais bon, on n'est pas non plus infaillible.
Mais est-ce que vous aimeriez faire partie d'un jury ou pas du tout ?
Mais moi je fais partie de 4 jurys.
Ah oui, notre interview bien bossée, c'est juste après Alice Merton, No Roots sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir tout en notant sadiquement les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui parfois aiment qu'on les corrige. Deux heures également pour apprendre à mieux connaître nos invités vedettes qui se livrent à notre micro comme rarement. Chez nous, c'est scoop sur scoop grâce à l'énorme travail d'enquête que nous effectuons notamment avec Eva Rock en amont de l'émission, comme on a encore pu le constater mercredi dernier avec le chef Michel Sarron.
Une question qui paraît anecdotique, mais vous êtes le seul chef à porter une veste noire ?
C'est une petite histoire que maintenant tout le monde connaît, donc ça a mal fait votre boulot.
Et pam ! Eva, pas de question pour l'instant.
Non, et vous mettez pas la fin du son, là ?
Bah, parce qu'il raconte l'histoire, mais il l'avait déjà raconté partout, c'est pour ça que j'ai pas posé la question. Quand même pour votre intervention, Eva.
Je raconterai à Olivier Rousteing en
off. Vous savez quoi ? Laissez-moi faire l'interview aujourd'hui.
Allez-y, on va rigoler.
La force incroyable de ce documentaire Wonderbuck, Eva a beaucoup aimé comment ? Parce qu'elle a un cœur derrière ce rire bête qu'elle affiche parfois. En liste pour le César de meilleur documentaire. Alors, on a tous pleuré, et on a tous pleuré au même moment, mais alors il ne faut pas trop en dévoiler non plus. Vous vous lancez dans cette recherche, et à un moment, on vous dit qu'il y a quelque chose dans le dossier. pas forcément toutes les réponses aux questions que vous vous posez, mais il y a quelque chose. Et cette scène, il y a un élément de, j'ai envie de dire, de réalisation. À un moment, il y a une boîte de Kleenex qui surgit, elle n'était pas sur le premier plan. Mmh. Vous nous racontez ce qu'il y a derrière cette scène ?
Oui, bien sûr. On est arrivé, nous, avant, avec mon équipe à la DAS, la ZE maintenant, pour préparer puis pour mettre à l'aise cette dame que vous voyez dans le film. Et elle avait mis cette boîte de Kleenex sur la table. Et
comme elle le fait dans...
à chaque fois, à chaque rendez-vous. Et c'était pas très joli dans ce cadre. Et je lui dis, mais vous inquiétez pas, de toute façon, Olivier, c'est quelqu'un qui est très en contrôle, il ne pleurera pas. Bon, cut. 2 heures plus tard, on filme et Olivier pleure. Et pas seulement lui, on était tous en larmes derrière la caméra. Et du coup, évidemment, bah moi, j'avais cette boîte de Kleenex à côté de moi que j'ai mise sur la table pour Olivier. C'était un moment très fort.
Ce que j'ai trouvé très beau dans le documentaire, dans la démarche, c'est le fait d'être passé par les voies officielles, de ne pas avoir embauché de détective privé. Il faut le dire à nos auditeurs, Olivier Rousteing, c'est une méga star mondiale, en fait, hein, de la mode. Enfin, vous auriez pu avoir, j'imagine, plein de passe-droits. Et on vous voit passer les coups de fil à l'administration, comme n'importe qui, attendre les réponses comme n'importe qui. Et c'est ça qui fait la force aussi du documentaire.
Vous y teniez, Olivier Rousteing. Voilà.
Oui, j'y tenais parce que je pense qu'on mettait une tierce personne dans l'histoire qui était ma mère biologique. Et je voulais absolument pas faire pression par rapport à mon statut. Donc j'ai voulu vraiment... on en a beaucoup parlé avec Anissa... j'ai vraiment voulu respecter la loi, respecter les codes et me dire que je ne voulais pas lui faire pression surtout.
Alors la loi, elle vous permet de lui écrire. C'est d'ailleurs le film se termine avec, on vous voit écrire une lettre à cette mère biologique. Ouais. Est-ce que vous avez envoyé cette lettre ?
Non.
Pas encore, ou vous ne l'enverrez pas ?
Parce que je pense qu'au-delà de la lettre, je fais une radio cet après-midi, je fais...
le documentaire déjà.
Je fais le documentaire. Mais ce que je veux dire, après le documentaire, je pense que je fais beaucoup de choses aussi pour me faire entendre, en fait. Et je me dis que maintenant, c'est à elle de me reconnaître. Elle m'a abandonné une fois, donc maintenant, elle peut essayer de me retrouver.
Wonderboy, le combat d'un enfant né sous X devenu prince de la mode est en lice pour le César du meilleur documentaire. Sa réalisatrice Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing passent l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Lui, c'est le prince de l'économie, le boss des taux d'intérêt, le Karl Lagerfeld du CAC. Avec Olivier Rousteing, ils ont des destins similaires. L'un est devenu directeur artistique de Balmain à seulement 26 ans. Lui est devenu dauphin d'or du meilleur chroniqueur éco à seulement 33 ans. Axel de Tarlet va nous parler aujourd'hui du retour fracassant du français sur la scène internationale. Axel, un homme qui a une éthique journalistique, bien sûr, mais une éthique tout court, comme cette conversation en antenne au sujet de l'affaire Griveaux le démontre. Une conversation dont je me suis dit qu'elle pourrait intéresser Madame de Tarlet, qu'on salue.
Oui. Il n'y a rien de blâmable là-dedans.
Bah, à part qu'il a trompé sa femme, mais ça c'est...
Ouais, bon, enfin, on s'en fout.
À vous d'entendre, madame.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures sur le fil entre humour, journalisme et émotion aujourd'hui, puisqu'on reçoit la réalisatrice Anissa Bonnefond, dont le documentaire Wonderboy est nommé au César. Documentaire qui porte sur la quête identitaire d'Olivier Rousteing, le jeune directeur artistique de la Maison Balmain, né sous X, et parti à la recherche de ses parents biologiques. On va évidemment pas trop en dévoiler sur ce qui se passe dans le documentaire, même si Eva a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce que vous vous êtes préparé à l'éventualité qu'il n'y ait rien du tout ? Est-ce qu'on aurait pu faire un documentaire ?
Oui. Ben, ça n'aurait pas été du tout le même documentaire, mais là, l'idée, c'était évidemment, étant né sous X, Olivier, on avait très peur à la base qu'il n'y ait rien dans ce dossier. Et on s'est dit que ça serait intéressant justement de filmer et de comprendre ce que les enfants nés sous X pouvaient faire avec des dossiers vides. Donc on aurait continué la quête d'une manière différente, on serait allé voir justement les autres possibilités.
Lui, ses parents biologiques, il les connaît sur 17 générations grâce à l'arbre généalogique qui trône dans l'entrée du château familial. Voici le marquis de Tarlet, vicomte du PIB. Olivier Rousteing, ça vous fait quoi de rencontrer en vrai le dauphin d'or 2003 du journaliste économique ? Ça doit être quelque chose quand même, vous qui croisez juste Neymar et des gens comme ça. Quoi.
C'est très émouvant.
Ça, j'imagine, c'est vos personnes qui ont de votre vie.
Vous n'avez pas entendu ma chronique.
Oui, c'est peut-être pour ça qu'il est ému, parce qu'après, bon. Alors, Axel, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Eh bien, savez-vous quelles sont les langues les plus apprises en Europe par les étudiants ?
L'anglais, le chinois.
Numéro 1, l'anglais, évidemment. Numéro 2,
le français ?
Bah voilà, c'est l'objet de ma chronique. Numéro 2, le français.
C'est aujourd'hui ?
Voilà, c'est le dernier classement Eurostat, mais loin devant, parce que la troisième langue, j'ai été surpris, je pensais que c'était l'espagnol.
Eh ben, c'est l'allemand, non ?
C'est l'allemand, oui.
Ah ouais ?
Et oui, l'allemand est très appris dans toute l'Europe centrale et même l'Europe du Nord, par exemple, en République tchèque, ils apprennent l'allemand, là, ou en Suède, etc. Alors. Mais le français est la langue la plus apprise après l'anglais, bien sûr en Allemagne, hein, en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas. Les Hollandais apprennent l'anglais, puis le français, en Espagne, etc. Et ça m'a rappelé un article que j'ai ressorti de The Economist qui disait, si vous voulez réussir, ça fait chic de citer The Economist.
Oui, je vous aime bien citer The Economist. Hein, voilà. Plus que Marie-Claire.
C'est ma petite astuce bizarre, pour donner un peu de profondeur à la chronique.
C'est malin, ça c'est futé. C'est futé comme conseil, Axel.
Donc, comme le dit The Economist... Il faut bien dire « the », pas « the economist », même si ça s'écrit « the », « the economist ».
Bien sûr.
Donc, comme le dit « the economist », il est très important pour réussir dans la vie professionnelle que de savoir une deuxième langue. Parce que tout le monde parle anglais aujourd'hui.
Il y a qu'en France qu'on vient de se réveiller là-dessus, Axel.
« the economist » parle à une certaine élite mondialisée. Ils disent « tout le monde maîtrise l'anglais ». Et donc, si vous voulez faire la différence, il faut connaître une deuxième langue. Et alors, quelle deuxième langue connaître? Alors, « the economist » passe en revue les différentes langues. Il dit « ne vous lancez pas dans le chinois, c'est beaucoup trop difficile, vous n'y arriverez pas. » Ça a été le problème du japonais.
Oui,
les gens dans les années 80 voulaient se mettre au japonais, à part dire bonjour, au revoir, ils n'arrivaient à rien. Ne vous lancez pas dans l'indien, parce que l'indien est tout sauf une langue. C'est vraiment une langue régionale. C'est qu'à l'intérieur de l'Inde, il y a 13 différents dialectes, donc vous allez apprendre
donc on élimine l'indien.
On élimine. Alors ensuite, il reste deux grandes langues, et bien ils disent apprenez le français, car c'est une langue beaucoup plus mondiale que l'espagnol. L'espagnol, si vous regardez, c'est une langue assez régionale. C'est régional.
Ah non, l'espagnol, c'est l'Amérique du Sud. L'espagnol.
C'est l'Amérique du Sud et l'Espagne. Alors que le français est parlé sur les quatre continents, le français est parlé dans 56 pays, et c'est parlé dans les pays, si vous regardez au Liban, au Maroc, etc., en Égypte, par les élites. Donc c'est très important de connaître la langue des élites. Ça fait chic de parler français. Et illustration, j'ai retrouvé dans les archives d'Europe 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Yasser Arafat, en 1989, vous voyez, j'essaye de densifier mes chroniques.
Il parlait français,
avait annoncé la fin de la charte de l'OLP, en employant un mot français. Il l'avait annoncé en conférence de presse, il avait employé la charte de l'OLP est caduque, et sauf qu'il y avait plein d'anglophones qui, ces idiots, ces journalistes anglophones, ne parlaient pas français, ne comprenaient pas.
En même temps, foutre caduque dans un texte anglais, c'est quand même bizarre.
J'ai retrouvé l'archive d'Europe 1, écoutez, 1989, Yasser Arafat qui annonce la fin de la charte de l'OLP.
Caduque. Et ceci fait que la charte devient caduque.
But what does caduque mean?
You can translate it from Larousse.
D'où l'importance de connaître le français.
Combien vous parlez de langue, Olivier Rousteing?
4.
C'est-à-dire?
Je parle anglais, français, italien, allemand.
Et alors, c'était des langues que vous avez apprises à l'école ou dans votre parcours professionnel?
Parcours professionnel et école. Allemand, c'était ma première langue. Ich spreche Deutsch, ein bisschen, ich habe alles vergessen.
Oula, mon Dieu, papy fait de la résistance. dites-nous, Olivier Rousteing, j'ai lu dans les interviews pour préparer cette émission que quand vous étiez petit, vous vouliez toujours être le premier en classe, justement c'est vous qui le dites, hein, pour prouver à vos parents adoptifs qu'ils ont fait le bon choix en vous adoptant. C'est incroyable comme démarche, ça. Est-ce que vous pensez que c'est le cas de beaucoup d'enfants adoptés?
Oui, je pense. Je pense quand on a un enfant adopté, on n'est pas sûr de soi réellement. On a peur d'être le mauvais choix ou peut-être pas le bon choix du moins. Donc, pour prouver qu'on est le bon choix, il faut faire le mieux dans tout ce qu'on peut faire. Mon père voulait que je fasse du foot pendant 11 ans. J'ai fait du foot pendant 11 ans.
Ah ouais?
Ouais, et je fallait que je sois très très bon. Je voulais pas être sur la touche. Donc, c'est pareil à l'école. Voilà.
Et vos parents aujourd'hui sont monstrueusement fiers? Ils sont dans
quel... Pas du tout.
Pas du tout. mais ils le sont, mais est-ce qu'ils s'intéressaient au milieu de la mode avant,
non,
par
du
exemple
tout. Non, en fait, non, mais
est-ce qu'ils réalisent l'ampleur du succès?
Parce que non, mais en fait, c'est ça que à la fois c'est beau parce que en fait, quand je leur dis voilà, j'ai un défilé, je fais ci, je fais ça, j'étais avec Beyoncé, ils en ont rien à foutre, ils disent juste mais pourquoi tu rentres pas à Bordeaux avec tes pantoufles et on mange devant la cheminée, quoi. Ils en ont rien à foutre que j'ai fait Coachella, habillé Beyoncé avec 300 personnes, 300 danseurs, rien à foutre.
Il faut dire que dans le film, on les voit, vos parents,
et on voit vos grands-parents, ils sont très touchants.
C'est quatre personnages qui sont extrêmement touchants. Ça, c'était essentiel pour vous aussi, Anissa, de les filmer dans cette histoire,
hein. Oui, absolument, absolument. Puisque c'est quand même une grande partie de la vie d'Olivier, donc c'était primordial pour comprendre d'où il vient.
Et ils étaient d'accord dès le départ de...
En fait, vous savez, ils sont même pas d'accord, je pense. C'est pas qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord.
Je pense qu'Anissa leur avait signé un petit papier quand même, parce que sinon ça risque de poser un problème.
Non, mais en fait, elle arrivait avec les caméras. Mes grands-parents, c'est des gens tellement généreux et gentils que finalement, c'était plus du genre mais posez votre caméra, venez manger, on a du gâteau. On disait non, mais elle est en train de filmer. Mais non, mais pour revenir à votre question, ce qui était intéressant, mon grand-père, je l'ai vu à Noël et en fait il avait les larmes aux yeux, il m'a dit mais je suis tellement fier de ce que tu fais, mais finalement si on pouvait choisir un Olivier qui avait moins de travail et qui est avec nous tout le temps, on préférerait. Donc je pense qu'ils sont, en fait ils se rendent pas compte Voilà, ils se rendent pas compte, mais c'est ça que j'aime chez eux.
Merci en tout cas, Axel Le Drey. On a dérivé un peu de votre chronique, mais c'était intéressant.
C'était très intéressant.
Votre chronique vous permettra-t-elle de remonter un petit peu au classement? La réponse tombera juste avant 18h.
Europe 1.
En temps normal, la séquence qui suit, le quiz qui oppose l'invité à Eva Rock, est déjà un moment périlleux. Mais aujourd'hui, on peut quasiment parler de mission suicide pour la malheureuse Eva qui va devoir défier Olivier Rousteing sur le thème de la mode. Alors Eva, je compatis d'avance, mais peut-être pourrez-vous vous appuyer sur les connaissances de vos collègues. Axel, un petit conseil fashion à Eva?
La mode est au gros pneu.
Ah oui, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bon, alors à tout de suite pour le quiz.
Europe 1. 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures journalistiques comiques ponctuées d'épreuves dignes de Fort Boyard, surtout quand arrive la cousine du père Foiras, la mère foireuse. Chaque jour, Eva Rock met au défi nos invités à travers un quiz thématisé, aujourd'hui fatalement pour Anissa Bonnefond, réalisatrice de Wonderboy, et Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain. Le thème de la mode nous a semblé propice à un combat déséquilibré comme on les aime. En plus, Eva est remontée à bloc la semaine dernière, un de nos invités, Michel Sarran, a trahi sa petite astuce vestimentaire.
Et puis après, je me suis aperçu que ça avait aussi quelques vertus amincissantes sans trop souffrir. D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de personnes habillées en noir sur ce plateau.
Ça va.
Il vous a grillé. Voici donc un quiz sur le vêtement. Alors, vous pouvez voir au look de ma collègue qu'elle s'y connaît. Donc, méfiance, c'est un vrai faux. Une réponse vaut un point. Possible. C'est parti. Pour donner une chance à Eva, Anissa, vous avez le droit de lui souffler les réponses. Eva Rock, en 2019, la blogueuse mode Fadela Mecheri a monté les marches du Festival de Cannes avec une robe faite avec des mégots recyclés qui avait été ramassé durant le festival de l'année d'avant. Vrai ou faux?
De l'année d'avant?
Oui, l'année précédente, si vous voulez.
C'est étrange, Anissa, vous diriez quoi?
Ah, j'en ai aucune idée. Ben, je dirais vrai.
Oui, moi aussi, je dirais vrai. Oui, oui, on va dire vrai.
C'est, si en c'est... plus, vous savonnez la planche des vins, c'est faux.
C'est par des contre... mégots de cette année-là. C'est ça?
De la veille.
Non, mais c'est quasiment aussi vicieux. Elle a quand même fait la montée des marches avec une robe faite avec des bouts du célèbre tapis rouge de l'année d'avant.
J'avais entendu
parler de cette histoire.
Ah oui, c'est
moi,
plus chic. Ça sent meilleur aussi.
Oui, certainement. Oui. Quoique. Olivier Rousteing, aux États-Unis, on peut acheter un costume I Want to Believe, David Duchovny ayant des parts dans une société commercialisant les vestes qu'il portait dans la série X-Files. Vrai ou faux?
Ah, je suis sûr que c'est vrai.
Eh bien, c'est faux.
Merde.
Par contre, et là aussi, il y a beaucoup de pièges aujourd'hui dans le quiz. Will Smith a lancé en fin d'année Bel Air Athletics, une ligne de vêtements directement inspirée de ce qu'il portait dans la série Le Prince de Bel Air. Vous regardez ça, Le Prince de Bel Air?
Il est trop jeune, Olivier.
On adore le Prince de Bel Air.
Quand même.
Non, de toute façon, vous avez déjà un point, Olivier. Vous inquiétez pas, parce qu'il triche à la longueur
de
question.
De toute façon, on triche toujours pour que l'invité gagne. Eva Rock, Olivier Rousteing, vous jouez ensemble. Vous vous souvenez de la robe en viande hachée de Lady Gaga?
Bien sûr.
C'est pas vous qui l'avez décidé, ça, c'est heureusement. Eh bien, la Britannique Sarah Louise Bryan a fait mieux. Quoi? Une robe en peau de kiwi, une robe en pétales de rose blanche ou une robe en poil pubien?
Alors moi je prends le poil pubien.
Non. Tu m'as sorti la phrase que je vais pouvoir recycler.
C'est
parce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose. C'est votre réponse?
Oui, oui.
D'accord. Mieux?
Ah, c'est dégueulasse.
Pétale de rose, non?
Pétale de rose. Moi, personnellement, on aurait co-créé une robe en pétale de rose avec.
Mais c'est trop classique.
Mais non, c'est trop classique.
Mais oui.
C'est la robe en poil pubien. Bon. Effectivement, pendant 6 mois, elle a fait des appels sur les réseaux sociaux pour avoir assez de matières premières.
Non.
Si j'ose dire. Dans un genre.
Elle est longue? C'est une robe longue?
Je ne sais pas. On enquêtera. On essaiera d'avoir une photo et on la publiera sur europe1.fr.
Je vous mets au défi, Olivier Rousteing, si on la retrouve la photo, de la publier sur votre compte Instagram.
Sur son compte Instagram. Vous voulez salir son compte Instagram. Olivier Rousteing, à Lyon, il existe un bar un peu particulier où pour boire un verre, il faut être en slip. Le bar s'appelle le Slip No More. Vrai.
Mais vrai, mais il n'y a pas qu'à Lyon, non?
Eh bien, effectivement, c'est vrai. Il n'y a peut-être pas qu'à Lyon, mais à Lyon, en tout cas, c'est un bar qualifié selon les propriétaires de bar semi-naturiste. J'aime bien ce concept.
Bah oui.
Attention, ce n'est pas une adresse libertine. Le soutien-gorge est autorisé pour madame. La déco est tropicale et je vous donne le nom des cocktails. On peut boire le dernier tanga à Paris.
Pas mal.
Ou un slip, hourra. Eva Rock, attention, cette question va vous départager. Eva Rock, Jaws, un DJ américain, a lancé le mois dernier une nouvelle marque de suite en France. Comme il est fan de requins, il a voulu évoquer les morsures du squale en inscrivant « bite » en grand. Ce qui signifie « mordre » en anglais.
Oui,
ou
d'accord, oui. Ah bah, il est capable, hein, sans savoir...
Vous le connaissez?
Bah non, je le connais pas, non, mais je dirais oui.
Vrai, c'est la folie du suite avec écrit « bite » dessus. Il n'a pas tout de suite compris pourquoi ses créations étaient autant commentées en France. Il a tout explosé sur les réseaux sociaux, on lui demandait souvent si plusieurs tailles étaient proposées. Qui remporte ce quiz? Oh, surprise! Olivier Rousteing remporte le quiz.
Quelle escroquerie monumentale.
Olivier, il faut en profiter pour revenir sur votre parcours incroyable. Rien ne vous destinait à devenir un des plus grands créateurs au monde. Vous avez hésité, il paraît, comme vous étiez premier de la classe, entre astronaute et avocat international.
Oui, il y avait aussi président de la République.
Pas mal aussi.
Ouais. Ah, ça, vous pouvez
ça
encore.
C'est toujours possible.
Je pense pas, non. Astronaute, plus astronaute, je pense, qu'avocat ou président. Ouais.
Vous étiez fort en maths aussi?
Mais ouais, j'étais super fort en maths. Ouais.
Et alors comment ça s'est passé? Vous avez commencé chez Roberto Cavalli, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'avais 18 ans.
Et c'était un stage?
Oui, c'était un stage, oui.
Comment,
18 ans.
Alors moi, j'y connais rien à la mode, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut monter si vite, si haut. Non pas à cause du talent, mais parce qu'il y a d'autres gens, j'imagine, dans un milieu ultra compétitif, qui font opposition au fait qu'un jeune se hisse si vite au sommet d'une maison. Comment vous avez
vrai.
Fait
Il faut se battre, il faut croire en soi, il faut déjouer les pièges qu'on peut nous tendre.
Il faut être stratège.
Il faut être stratège, c'est comme Fort Boyard. Mais version mode.
Vous avez 33 ans aujourd'hui?
Ouais.
Est-ce qu'il y a encore des rêves qui vous restent à accomplir?
Voilà. Je pense avoir des réponses. Enfin, rencontrer mes parents biologiques, je pense que ce serait vraiment ça qui me hante, je dirais, dans la tête. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses déjà à 33 ans. C'est ça aussi la plus... C'est ça le bonheur, la chose la plus cruelle, c'est quand on a beaucoup de choses, en fait, on a l'impression qu'il nous manque encore plus. Enfin, c'est toujours l'insatisfaction qui est plus grande. Donc, mais j'aimerais bien que mes parents biologiques les rencontrer, en fait.
Cette quête va donc probablement continuer, mais pas sous l'œil d'une caméra, Anissa. Il n'y aura pas de Wonder Boy 2, on est d'accord?
Ah non, bien sûr que non.
Ça n'aurait pas
non,
de sens
pour vous.
Non, ça
n'aurait pas de sens.
Est-ce que ce documentaire, vous êtes en pleine préparation, on disait qu'il y a votre défilé vendredi, est-ce que ce documentaire a changé quelque chose dans votre conception des défilés, dans votre conception du métier ou dans vos sources d'inspiration?
Je ne dirais pas que ça a changé dans ma source d'inspiration. Quelque chose qui a changé, c'est le fait que je m'accepte beaucoup plus, en fait. Et je pense que ce documentaire, ça montre aussi que je suis un designer français avec un parcours différent. Et la mode, c'est un milieu assez élitiste et c'est un milieu où on a besoin de respecter certains codes, parfois que je pense être ridicule. Et je trouve qu'avec ce documentaire, on montre aussi une autre facette de la mode, une autre facette d'un designer. On n'est pas des designers, je suis pas un designer dans une tour de verre, je suis un designer, voilà. Métis, black, adopté, avec mes peurs, avec mes doutes. Quelqu'un qui peut rigoler, je suis pas juste là en train de boire du champagne avec des célébrités. Enfin, c'est une autre aussi facette, et donc c'est ça que je montre aussi, et je suis fier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se rendre compte que la mode, c'est pas finalement que pour une caste, c'est aussi pour des gens qui viennent de rien.
Leur documentaire obtiendra peut-être le César du meilleur doc, on leur souhaite. Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est une équipe jeune et dynamique qui vous accompagne chaque après-midi dans l'allégresse de l'infotainment. Surtout ma consoeur Eva Rock, toujours prête à démarrer au quart de tour.
Are you ready?
Alors attends que je regarde quand même ce qu'on fait.
Non, ne te casse pas, ouais. Je vais te dire, j'ai le conducteur sous les yeux, moi. Alors, à suivre, régional géographique, notre décrochage régional qui nous amène ce matin du côté de Bordeaux pour parler foot. Ça sera mon cher Axel, juste après Jacques Dutronc, J'aime les filles.
Moi aussi.
Oui, non, mais c'est la question, J'aime les filles.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Nous sommes toujours en compagnie d'Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing pour évoquer Wonder Boy, ce poignant documentaire sur la quête d'un enfant né sous X à la recherche de ses racines biologiques. Documentaire en lice, je le rappelle, pour le César du meilleur doc. On continue d'en parler juste après notre décrochage régional. Alors vous me direz, foutre la musique d'Indiana Jones pour aller à Bordeaux, c'est peut-être un peu exagéré, certes, mais faut bien dramatiser un peu le truc. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Certains disent que les jeunes fuient la presse papier. Eh bien, pas toujours. Vous avez déniché une belle exception chez vous, à Bordeaux.
Oui, c'est vrai. Alors, en fait, c'est une bande d'étudiants en Sciences Po. Ils sont étudiants en sciences politiques à Aix-en-Provence, à Bordeaux, à Strasbourg. Ils ont un point commun, ils adorent le ballon rond. Et au départ, eh bien, ils ont créé un blog pour parler de foot. Et c'est de là qu'est venue l'idée de prolonger l'expérience journalistique sur papier. Le second numéro de Caviar, c'est le titre de ce magazine, moi je trouve magnifique, est sorti il y a quelques jours. Et ces étudiants... Vraiment, ne ménagent ni leur effort, ni leur argent pour la réussite de ce projet. Ils ont quasiment multiplié la pagination par deux. Ils ont tiré 6000 exemplaires de cette deuxième parution. Victorien Fragne, 21 ans, qui prépare un master en relations internationales, est le directeur de la publication de Caviar. Et il aborde le foot, évidemment, avec ses copains là, qui sont rédacteurs dans ce magazine, sous un angle original.
On s'est dit, bon, mais en fait, le football, c'est plus que simplement parler des matchs du week-end, c'est un sujet de société, un vrai thème de société. Les articles qui nous distinguent, c'est par exemple une enquête sociologique de la situation du foot rural actuellement. Le football rural est-il en déclin? Comment il anime nos campagnes? Et on a des super contributeurs donc sur une plateforme qui nous permet, avec du financement participatif, de nous aider. Mais évidemment, ça n'a pas suffi à faire publier le magazine dans toute la France et il a fallu investir un peu de nos poches. Donc on peut dire qu'on passe beaucoup de temps et qu'on a dépensé également pas mal d'argent qu'on a récolté les étés ou pendant des petits stages de quelques semaines, qu'on réinvestit maintenant dans Caviar et on ne regrette absolument pas.
Avouez que c'est quand même formidable. Ils sont pleins d'enthousiasme. Ils abordent ça avec vraiment des angles intéressants. C'est quand même plus riche que si on me perdrait, ce serait la goutte qui ferait tomber le vase. On va prendre les matchs les uns après les autres. Et ben oui, mais c'est quoi les interviews qu'on entend souvent?
C'est vrai.
Ben non, eux, ils ont décidé de traiter le foot. Et ce qui est important, c'est les trois points. Ils ont décidé de traiter le foot avec vraiment une curiosité, des perspectives. Si vous ne trouvez pas Caviar chez le buraliste de votre quartier, vous pouvez localiser les points de vente sur le site du magazine. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, le titre se vend 4,10€.
Et qu'est-ce qu'un caviar? Peut-être le rappeler à ceux qui ne suivent pas le foot.
Ah, moi,
alors,
je sais.
Moi, si vous voulez, j'ai toujours joué avec un ballon, avec les mains. Je suis un rugbyman.
Vous voulez que je vous explique?
Voilà, je préfère que vous l'expliquiez. Je sais à peu près ce que c'est, mais
un caviar, c'est une passe parfaite.
Ouais,
c'est la passe rêvée qui vous met en position pour mettre un
mais
but.
Mais c'est pas qu'en foot. Hein.
C'est un caviar.
En basket, on dit aussi une belle passe, c'est aussi passe
décisive.
Exactement.
Et bah, parce
et
qu'on
un
rappelle
caviar.
Que vous avez fait les belles heures du Stade Laurentin.
Exactement.
Basket dans une autre vie.
Ah, c'est vrai.
Ouais,
oui, bien
c'est
sûr.
Vrai.
Moi, je vous laisse entre vous discuter de cette belle heure.
Non, parce que moi, le basket, je m'y suis jamais vraiment essayé. On me disait que j'étais trop petit, mais donc en fait, non, il y a pas de problème de taille.
La taille,
voilà, 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 voilà. Allez, bonne journée.
Bisous, bisous, Stéphane.
Je vous embrasse.
Europe 1.
L'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue avec nos invités d'honneur Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing, le génie français de la mode. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre et se disputer eux aussi la couronne de chroniqueur du jour. On reviendra notamment sur l'incroyable destin de Louis Armstrong, l'homme qui a donné envie à Eva de se mettre à la trompette. Pas la meilleure chose qu'il ait faite, mais on lui pardonne parce qu'il a donné aussi envie à Ibrahim Malouf. A tout de suite donc pour une deuxième heure de découverte, de rire, mais aussi parfois au détour d'un sujet. De prise de conscience.
Un jour sans embrasser n'est qu'une demi-journée.
Ah bah alors je suis à mi-temps depuis longtemps.
Oh, voilà.
Vous l'aimez bien celle-là.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Ils sont quatre, mais il n'y a qu'une seule couronne. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Un seul décrochera la couronne de chroniqueur du jour. Sous l'œil d'une réalisatrice de talent, Anissa Bonnefond, et d'un créateur de génie qui doit être en train de se demander comment il pourrait sauver stylistiquement Eva Rock. Depuis une heure, il l'observe, s'interroge, tente de trouver une martingale.
Vous allez me lâcher.
Il faut dire que question mode avec Eva, on part de très loin, comme elle le confie elle-même l'autre jour en tombant sur une image de Chouchou, le personnage de Gad Elmaleh.
Merde, elle a ma robe que je voulais mettre cet après-midi.
Un coaching s'impose et je pense qu'il va vous coûter cher, Eva. Olivier Rousteing, vous restez avec nous. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre. On va parler de comment reprendre la main sur ce que font nos ados sur leur smartphone et de l'histoire méconnue d'un géant du jazz.
Michel Sardou, hein.
Presque, Louis Armstrong. Ça se cogne pas comme la Java à Broadway, mais pas loin, vous verrez. Mais quelle est donc cette petite sonnette? Oui, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Quand la comédie la plus déjantée fricote avec le journalisme le plus rigoureux, vous écoutez l'équipée sauvage. Deux heures d'un combat sans merci au service de votre culture G entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 pour un spectacle mêlant comique et suspense. Si vous connaissez pas notre émission, il faut imaginer un mash-up de Star Wars et de la Grande Vadrouille.
Je suis ton père.
Dans le rôle de la princesse Leia, en plus dévergondée, Eva Rock, toujours prête pour de nouvelles aventures, pas vrai Eva?
Même avec la langue.
Bien, en studio avec nous aujourd'hui, son documentaire est en lice pour le César vendredi soir, la réalisatrice Anissa Bonnefond et celui qui est le sujet de son documentaire, la star des stylistes français à la tête de la création de Balmain, Olivier Rousteing. On continue évidemment de parler de ce documentaire, Wonder Boy, la quête d'identité d'un enfant né sous X. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, notre expert musique, alors attention, je vous préviens, pour décrocher les trois points de l'invité, il est prêt à tout, comme a expliqué à Mathias Maldieu du groupe Dionysos que son dernier album vaut le Sgt Pepper des Beatles. Sa devise, plus c'est gros, plus ça passe. Même Eva Rock était gênée, écoutez.
Il y a des tubes en puissance, il n'y a aucun morceau qui fait plus de 3 minutes et des poussières, c'est des morceaux assez courts. Petit côté Sgt Pepper dans l'ensemble, je trouve, le côté à la fois conceptuel et on peut sortir chaque chanson, mais pas nostalgique, c'est ça qui est fort. Pas nostalgique, pas revival.
On avance un petit peu.
On avance un petit peu, ça sera mieux, hein. Bonjour Fred Vesine.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Donc j'imagine qu'à vos yeux, Olivier Rousteing a ringardisé Karl Lagerfeld.
Pas du tout. Non, il n'a même pas voté pour moi, Mathieu Smaljan.
C'est vrai, en plus ça ne sert à rien. Fred, vous êtes le directeur de Jazz Magazine et cet après-midi, vous nous racontez l'enfance d'un géant.
Alors, comme dit le journaliste James Stewart dans le génial western de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, si la légende devient réalité, alors imprimez la légende. Claire Julliard a imprimé la légende tout en respectant la réalité. Et moi, je dis bravo et je vous expliquerai pourquoi, tout à l'heure.
Et ça parle de qui ?
Et ça parle de Louis Armstrong.
Voilà. Et à chaque fois, il oublie de nous dire c'est l'origine principale.
Ils sont mal élevés, il connaît tellement beaucoup de mecs de jazz, et il oublie. C'est pas John Coltrane, je sais pas qui il parle, mais il est qui. À ses côtés, ma chère Anissa, mon cher Olivier, gaulé comme il est, il aurait pu défiler pour Balmain. Hélas pour lui, il a choisi la filière informatique. Il est aujourd'hui l'expert high-tech d'Europe 1, et comme ça gagne pas des masses, il est également le soir venu Chip and Dale au Dirty Blue Boy derrière la place de Clichy. C'est pas non plus faire bien payer, mais heureusement, il y a les pourboires en cash des quadras surexcités qui lui glissent des billets de 100 directement dans en criant
Anissé.
Mais restons discrets sur le sujet, la directrice d'Europe 1 n'a pas été prévenue.
Et ma femme non plus n'est pas au courant.
Bien sûr, Anissé, bien sûr qu'elle n'est pas au courant, imaginez. Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Anissé, après votre déconfiture de mercredi dernier avec votre carnirote, cette carotte à base de dinde que le chef Michel Sarran vous a renvoyé à la figure, avec quel sujet allez-vous tenter de refaire surface aujourd'hui?
Non, je ne vais pas commencer à parler de mode et de high-tech, sinon
mieux.
Je crois que je suis complètement... Je vais parler des téléphone portable, vous savez qu'avec les téléphones portables et les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire des choses qu'on finit par regretter. Et bien moi, je vais vous parler d'une nouvelle génération d'appareils qui vont nous empêcher, par exemple, d'envoyer des selfies nues complètement bourrées.
Hein. Ce qui vous arrive assez souvent, visiblement, très votre inquiétude.
Donc, pour nous protéger de nous-mêmes et surtout protéger nos enfants.
Alors, l'enfance méconnue de Louis Armstrong ou bien comment mieux fliquer ses enfants, quel sujet l'emportera? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers nos invités. Anissa Bonnefond, vous signez, on l'a dit, un superbe documentaire sur Olivier Rousteing nommé au César. Olivier Rousteing, qu'est-ce qu'il y a?
Je croyais que vous aviez demandé si elle avait envoyé des selfies nues déjà.
Eh bien, écoutez, on peut changer mon interview. Anissa, avez-vous montrez-moi votre portable. Non, je disais, Olivier Rousteing, dans le monde de la mode, tout le monde connaît, c'est un nom célèbre, mais quand j'ai dit à mes copines que je le recevais, elles m'ont dit... Mais qui est pour vous, Olivier Rousteing? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trottrash. C'est pareil, sauf qu'on a absolument tous les... Oh my God.
Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain. J'achète rien, moi, chez eux. C'est trop cher. Il faut qu'ils baissent les prix.
C'est une personnalité spéciale. J'aime beaucoup.
C'est un mannequin. Il a une belle tête.
Il a des beaux traits.
Je pense qu'il a réussi à renouveler la mode française.
Balmain, c'est une vieille marque. Alors, ça existe, je ne savais même pas que ça existait toujours.
Très classe, avec beaucoup de prestige.
Si j'avais des vêtements Balmain, je ferais la belle. Je les porterais. Déjà, je ferais des photos Instagram. Je serais là. La meuf.
Fan du personnage, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une vie facile. C'est très bien pour les jeunes d'aujourd'hui de montrer qu'en travaillant et en défendant ses idées, on peut réussir quoi qu'il arrive.
On ne connaît pas, non, inconnu. Et vous savez où on habite, nous? Dans le Tarn. Eh Olivier, il faut venir dans le Tarn parce qu'à Paris, ça sert à rien. Hein.
Il a réussi à internationaliser, je sais pas si... Non, ça se dit pas, si. La mode française.
Bah Olivier, envoyez-moi des trucs Balmain, s'il vous plaît.
Envoyez-moi des trucs Balmain. C'est vrai que le luxe, ça fait rêver, mais tout le monde n'a pas les moyens. Est-ce qu'il faut forcément débourser des fortunes pour avoir du style? Ou bien c'est possible d'être élégant à moindre frais? Fermons les yeux, Olivier. Imaginons que ce stage chez Cavalli n'ait pas débouché sur un poste dément, que vous n'ayez pas réussi à percer comme ça. Imaginons que vous n'ayez pas les moyens que vous avez aujourd'hui. Comment vous vous habillerez personnellement? Est-ce que par exemple, on pourrait vous croiser chez H&M? Est-ce qu'on peut bien s'habiller pour pas trop cher?
Alors attendez, on va juste couper le micro pour que mon président m'entende pas. mais oui, je pense que oui, au contraire. Enfin, moi, je suis fan surtout des H&M, Zara, quand ils copient Balmain, je trouve ça très très bien. Vous savez, il y a Coco Chanel qui disait quand when you're original, be ready to be copied. Et je pense que c'est ça l'intérêt. Donc oui, je trouve ça génial, moi, quand je vois les petits, mon cousin qui me dit « Ah, j'ai acheté ça chez H&M et on dirait un pull Balmain », je suis trop content. Je trouve ça génial. Et moi, je m'habillais souvent à H&M aussi quand j'étais gamin.
Une des forces du documentaire, à mon avis, on a parlé un peu avant l'émission avec Anissa qui est arrivée avant vous, Olivier. Et je me suis dit, c'est pas le documentaire d'une fan de mode particulièrement qui fait ce documentaire. C'est vraiment l'humain. Et vous me disiez, Anissa, qu'avant de rencontrer Olivier, vous n'étiez pas une fashionista.
Ah oui, pas du tout. Je suivais même pas Olivier sur Instagram. Enfin, c'est pas du tout un monde qui m'intéressait plus que ça. Je trouve ça beau, mais...
Enfin, alors après, maintenant...
Alors maintenant...
Parce que non. Bah,
maintenant j'adore, je me suis dit c'était vraiment super de pouvoir faire ce film.
Et qu'est-ce qui se passe vendredi? Et qu'est-ce qui se passe vendredi au César?
Ah, vendredi, ah. Olivier il m'a dessiné une robe très très belle.
Ah, bah, carrément,
c'est le conte de fées là.
On a Beyoncé qui nous demande et on a Anissa Bonnefond. Et sur l'échelle de la complexité, la difficulté, Anissa est très très haut.
Son documentaire est en liste pour les Césars. Anissa Bonnefond est avec nous jusqu'à 18h avec le Wonder Boy de la mode française, Olivier Rousteing.
Europe 1.
À suivre, Anis Mbida, j'imagine que vous vous souvenez de comment ça s'était terminé la dernière fois que vous avez croisé Fred Gohati.
La fessée.
Non, je veux dire, vous êtes croisé ici, alors à l'antenne, dans le cadre du travail, pas au Dirty Blue Boy. Vous aviez perdu. Depuis quelques temps, Gohati est imbattable. Va-t-il confirmer aujourd'hui? En tout cas, il nous parle de l'enfance méconnue d'un génie, Louis Armstrong. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est au chic français ce que je suis au chic suisse. Une référence absolue. Olivier Rousteing, le styliste de Balmain et notre équipier sauvage du jour avec Anissa Bonnefond, réalisatrice du très beau documentaire en lice pour les Césars, Wonderboy, qui lui est consacré. Le César, il est plus important pour qui? Il est quand même plus important pour vous, Anissa. Vous, Olivier, ça vous ferait plaisir qu'elle l'ait, mais vous n'allez pas être aussi angoissé qu'elle vendredi soir.
Ah non.
Vous en foutez?
Ouais. Non, je m'en fous pas.
Mytho.
Et Anissa nous dit que le prochain documentaire est déjà en phase de préparation, voire même en tournage, ça commence.
J'ai commencé ce week-end, ouais.
Et vous pouvez nous donner le thème?
Oui, c'est sur une joueuse du PSG féminin qui s'appelle Nadia Nadim, qui est afghane d'origine et qui a dû fuir l'Afghanistan quand elle avait 12 ans avec sa mère et ses 4 sœurs suite à l'assassinat de son père par les talibans. Voilà.
On continue de parler pour l'instant du documentaire Wonderboy, mais la compétition doit continuer. L'heure est venue d'entendre notre troisième compétiteur du jour, Fred Gohati. Vous nous parlez aujourd'hui de l'enfance d'une star, plus qu'une star, un génie. Il a marqué l'histoire de la musique au XXe siècle. Eva, une idée?
Ah, Dick Rivers.
Vous étiez vraiment pas loin. Louis Armstrong.
Comment démarrer une chronique? Ah oui, des fois on cherche ses mots. Ouais. Faut l'avouer. Et puis on réalise, on se souvient qu'un autre les a trouvés, bien mieux que moi, je ne le ferai jamais. Il s'appelle Claude Nougaro et il chantait Louis Armstrong en 1966.
Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc.
Alors, c'est pas en chanson, mais bien en noir sur blanc que Claire Juliard a choisi de raconter l'enfance et la jeunesse de Louis Armstrong. Alors, on sait pas toujours ce qui relève de la réalité, de la légende et de la fiction, pour les débuts en tout cas, l'enfance de ce génie du jazz. Mais Claire Juliard, elle a pris le parti et elle a bien fait de mettre dans la bouche de son héros, parce que le livre est raconté à la première personne, tout ce qu'on sait vraiment sur lui. Alors elle fait de Louis Armstrong une sorte de héros populaire, un gamin intrépide et joyeux qui se raconte donc à la première personne et dont la vie bascule un soir de décembre 1912 à cause d'un coup de feu tiré en l'air. Je vous en dis pas plus, je vais pas trop spoiler l'histoire. Alors dès lors, il est enfermé dans un institut pour délinquants juvéniles et là, il entre dans une fanfare. Alors on lui tend d'abord un tambourin. C'est pas ça terrible, le tambourin. Et c'est évidemment en jouant
moi,
de la trompette.
Pareil, la flûte à bec. J'ai tout arrêté.
Eh oui, on est tous des traumatisés de la flûte à bec. On jouait la sarabande de Handel à l'école. Mais c'est évidemment en jouant de la trompette et en chantant qu'il va peu à peu devenir l'ambassadeur universel du jazz. Alors la vertu principale du livre de Claire Juliard, c'est de nous faire comprendre l'importance cruciale de l'enfance d'un génie. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Louis Armstrong, il a grandi dans le quartier de Storyville, à la Nouvelle-Orléans. Un quartier donc qui tient en 4 mots. Alcool, jeu, prostitution et jazz. Alors faut-il rappeler aussi que l'Amérique du début du XXe siècle, c'était encore celle de la ségrégation, des humiliations quotidiennes faites aux Noirs et des lynchages. Mais comme tant d'autres musiciens américains, Louis Armstrong a réussi à transformer le malheur en bonheur. Il en a ri avant d'être obligé d'en pleurer. Alors le livre se termine au moment où Louis Armstrong quitte sa... Je révèle rien, vous inquiétez pas. Il quitte sa ville natale, donc la Nouvelle-Orléans, pour aller s'installer à Chicago. Et c'est justement à Chicago qu'il a enregistré le 28 juin 1928, oula, ça remonte à loin, un morceau intitulé « West End Blues » qui débute par quelques mesures de trompette jouées en solo. Et cette introduction extraordinaire, c'est le Big Bang, pas le Big Band, le Big Band, c'est l'origine de tout l'univers du jazz. Voilà. Ça, mine de rien, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire du jazz. C'est un moment où un homme se met devant les autres et dit « Moi, je vais prendre la lumière, je vais lever ma trompette en l'air
et je vais jouer. Et je peux vous dire que depuis que Louis Armstrong a gravé dans le marbre, en quelque sorte, ce morceau, tous les trompettistes de jazz, tous sans exception, doivent quelque chose à Louis Armstrong. Car plus qu'un style, en fait, hein, il a inventé le jazz, c'est ce qu'on dit souvent. Il a surtout inventé un langage que tous les musiciens de la planète parlent ou chantent. Parce qu'un peu plus loin, dans le même 78 tours qui dure à peine 3 minutes, il se permet de scatter, d'improviser sans parole, avec des onomatopées, avec le clarinettiste. Écoutez. Et ça aussi, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité, en quelque sorte de la musique en tout cas, que quelqu'un se permettait de faire ça sur 3 minutes. Et vous savez qui a été bouleversé et influencé très profondément par cette phase de 78 tours? Bah, rien moins que Billie Holiday. Voilà, donc c'est pour vous dire l'importance de Louis Armstrong, de Louis Ier en quelque sorte, l'autre roi soleil.
Merci beaucoup Fred Gauthier. Olivier Rustin, je crois savoir que la musique a une place très importante dans votre vie.
Oui, absolument.
C'est vous, j'imagine, qui sélectionnez du coup la musique des défilés.
Oui.
Et alors, comment vous passez votre vie à écouter
à écouter des sons.
Ça vous inspire, c'est une source d'inspiration pour créer
Oui.
Quand vous, je sais pas si vous dessinez.
Oui, je dessine.
Et vous dessinez en écoutant de la musique.
Toujours, j'ai toujours besoin de musique pour quand je dessine. Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop en vous demandant quel morceau de musique on va pouvoir entendre vendredi lors de votre défilé ?
Jean-Jacques Goldman.
Quel morceau ?
Non, c'est pas une blague.
C'est vrai, laquelle ?
En fait, j'ai fait le tour du monde. J'ai déjà mis du Beyoncé, j'ai mis du Michael Jackson. J'ai dit, mais pourquoi pas mettre du Michel Sardou ? Et donc, en fait, le prochain défilé, vendredi, ça sera un hommage à toutes les musiques que j'écoutais dans la voiture avec mon père.
C'est génial.
Il y aura du Jean-Jacques Goldman, et dont la première, ça sera Envole-moi.
Et bien voilà.
Et ainsi, Nuit de folie. Parce que j'adore début de soirée.
On remercie quand même Fred Gauthier. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire? Ça, seuls nos auditeurs nous le diront tout à l'heure.
Europe 1.
Nous vivons une drôle d'époque. Désormais, le soir, les Français ne font plus l'amour. Ils s'engueulent devant l'écran d'accueil de Netflix pour savoir ce qu'ils vont regarder.
Tout va bien.
Non, tout ne va pas bien.
Je ne veux pas qu'on en parle.
Évitez ça. Laissez une pro décider pour vous. Chaque soir, Eva Rock vous guide dans la jungle des programmes juste après Crystal Murray, Princess sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Il est le prince de la mode française. Son défilé aura lieu vendredi matin. Il y aura des étoffes magnifiques, des flashs, du champagne.
Il y aura du saucisson aussi.
Non, hélas, je ne crois pas qu'il y aura de saucisson.
Oh
hélas, le directeur artistique de Balmain, Olivier Roustin.
Mais vous savez quoi, si je crois.
Ah bah voilà.
Non mais sans plaisanter, en fait on s'est rendu compte que je défile à Champéry et juste à côté c'est la fête de la saucisse. Non mais sans plaisanter, là, j'ai dit non mais c'est une blague.
Il réinvente vraiment tous les codes de la mode.
Non, je sais pas comment ça s'appelle, c'est le salon de la saucisse, il y a un truc comme ça à Champéry là, je veux pas faire de pub hein. Mais c'est juste à côté de mon défilé.
Oui.
Écoutez, voilà. Saucisse et mode.
Exactement, ça va très bien.
Le nouveau combo gagnant.
Mais oui.
Je ne sais pas si vous êtes au courant les amis, mais selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous désormais chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les plateformes comme MyCanal par exemple, sur lesquelles est disponible Wonderboy, avant de se décider avant de se décider. Heureusement, Dieu, dans son infinie mansuétude, a créé Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur les écrans ?
Non, c'est sur les écrans. Documentaire événement, c'est à voir sur Netflix. Sur un homme, écoutez, vous avez essayé de reconnaître sa voix.
We're not brutalized because we're Muslims. We're brutalized because we are black people in America.
Vous avez reconnu
Martin
Mathieu ?
Luther King.
Presque. Non, pas tout à fait.
Caramba, encore raté.
Malcolm X, c'était la voix de Malcolm X, c'était il y a 55 ans. Petit retour en arrière, le 21 février 1965, il était assassiné lors d'un meeting à Harlem, sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Après la fusillade, en fait, les forces de l'ordre ont arrêté un homme qui était sur place, et puis quelques heures plus tard, deux autres ont été interpellés. Ils sont tous liés à ce qu'on a appelé Nation of Islam, c'était une organisation politico-religieuse à laquelle a appartenu Malcolm X avant de s'en détacher totalement. Donc on peut se dire, fin de l'enquête, fin de l'histoire. Enfin presque, parce que ce documentaire revient justement sur cette enquête, nouvelle enquête même menée avec rigueur et pédagogie grâce à un homme. Il s'appelle Abdourahmane Mohamed et depuis des années, il consacre sa vie à Malcolm X et notamment à son assassinat. Et les recherches qu'il va faire démontrent totalement le travail de la police et démontrent surtout qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui perdurent, notamment concernant le rôle du gouvernement américain. Et il revient notamment sur l'arrestation de ces trois hommes. Parce que le seul qui avait été arrêté sur place a bien avoué sa participation au crime, mais a innocenté les deux autres et a évoqué un commando de 5 personnes qui sont toutes liées à Nation of Islam. Eh bien, la justice n'a jamais enquêté sur cette déclaration. C'est un seul des petits éléments révélés dans ce documentaire. Vous en verrez, il y en a beaucoup de scoops, comme on dit. Et cette enquête, eh bien, elle pourrait aboutir à la réouverture de l'enquête, dit le procureur de Manhattan. Il y a un examen préliminaire du dossier qui est en cours et qui permettrait d'engager de nouvelles investigations, ce qui est quand même assez rare. Ça s'appelle « Qui a tué Malcolm X ?» et c'est à voir sur Netflix en 6 épisodes.
C'est bien fait en termes de documentaire, genre, c'est prenant. Il y a des cliffhangers.
Il y a des cliffhangers. Le récit est génial, les archives sont incroyables et le nombre de témoignages est absolument bluffant. C'est vraiment très très réussi.
En 3 minutes, on en a gagné 17. Merci Eva Rock. Europe 1. C'est l'estomac serré que notre dernier compétiteur se prépare. En effet, sa dernière chronique face au chef Michel Sarran mercredi dernier sur la carnirote, produit aussi innovant qu'inutile, n'avait pas rencontré l'écho qu'il espérait. En fait, n'avait pas rencontré d'écho du tout. Il faut dire que présenter une carotte à base de dinde à un chef doublement étoilé partisan d'un retour aux choses simples n'était peut-être pas l'idée du siècle.
Oui, parce que vous connaissez la viande qui est fabriquée à base de légumes, hein, la viande qui a un goût de viande, la viande végane, mais qui est fabriquée à base de plantes. Vous connaissez ça, genre de choses?
Non, je ne connais pas.
Sous-titres et je m'en fous. Aujourd'hui, Anis Elmina s'apprête à ratisser plus large avec un sujet qui concerne tous les parents qui nous écoutent. Comment mieux surveiller l'activité numérique de nos enfants?
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
C'est un véritable rêve éveillé pour la fashionista du vieux Nice, Eva Rock, que de rencontrer son idole. Un des plus grands créateurs français. D'ailleurs, Eva, vous me le disiez hors antenne dans vos rêves les plus fous.
Je me tape des ours polaires.
Non, vous portez du balmain. C'est l'autre rêve que tu fais souvent. Olivier Rousteing qui
mais
fait l'objet d'un documentaire
hein.
Nommé au César vendredi. Bah, c'est lundi, on ne s'est pas
lundi,
vu depuis longtemps.
Ça,
on a pris des mini-vacances,
ouais,
c'est pour ça.
C'est ça.
Wonder Boy.
Pris des mini-vacances.
Eva, vous voulez bien qu'on parle du documentaire qui est plus intéressant que voilà, Wonder Boy, qui est donc nommé au César.
Là, ça ne va pas bien.
Désolé. On continue de parler de ce magnifique documentaire et de ce défilé qui arrive vendredi. Mais l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour. Le cerveau d'un informaticien, le corps pas d'un informaticien. Voici Anis Elmina, journaliste rangée le jour qui se transforme le soir venu en coqueluche du Paris by Night. Samedi soir encore, à en croire certaines discussions entendues dans une backroom du Dirty Blue Boy, la nuit a été longue.
Bah c'est une carotte ça.
Ça ressemble à une carotte, c'est un goût de carotte, mais c'est fabriqué entièrement avec de la dinde.
Mais chut, sa femme n'est pas au courant.
C'est ça.
Anissé, ce soir, c'est un sujet très pragmatique que vous nous proposez.
Un sujet familial.
Ah oui. Alors les enfants peuvent revenir sur Europe.
Alors vous savez que sur les téléphones portables et sur les réseaux sociaux, il y a des fonctions aujourd'hui pour ajouter des restrictions. Hein. Je ne sais pas, par exemple, limiter le temps passé sur Instagram ou interdire certaines applications à partir de certaines heures. On peut aussi utiliser un contrôle parental pour surveiller ses enfants, pour fliquer ses enfants. Le problème, c'est que les enfants sont assez malins aujourd'hui.
Ils sont plus malins que nous, quoi.
Ils sont capables de deviner tous les codes et de tout enlever. Aujourd'hui, on a inventé un nouveau type de téléphone, une nouvelle génération de téléphone portable avec des restrictions d'usine. Typiquement, il y a une nouvelle génération de téléphone qui va détecter automatiquement les corps dénudés. Donc si vous essayez de faire un selfie dénudé ou photographier quelqu'un nu, il va analyser toutes les images et va dire hop, là, il n'enregistre pas dans le téléphone portable.
T'imagines la déception de l'ado qui a son premier portable. Fait, évidemment, il n'est pas sur le site du monde.fr, tu vois, l'ado. Il va dire, regarde sur le site du monde, maman, j'ai trouvé cette info. Puis, dès qu'elle n'est pas là, clac, Pornhub. Et là, premier truc brouillé. C'est horrible.
Alors, c'est un téléphone qui a été fabriqué pour les ados, justement pour rassurer les parents. C'est un téléphone qui a été fait au Japon, parce qu'au Japon, il y a beaucoup de pédophiles qui incitent des jeunes à envoyer des photos porno. Et c'est un téléphone aussi qui peut également être utilisé par des adultes, parce qu'il y a un système dans le téléphone qui va gérer qui va découvrir tous les mouvements, tous les comportements inhabituels. Typiquement, si vous titubez, vous bougez un peu dans tous les sens, etc., vous prenez pas le même chemin que d'habitude, il va pouvoir prévenir automatiquement personne de confiance.
Oh, c'est horrible.
Imaginez
que vous le donnez un enfant, vous donnez ce téléphone à un enfant et il rentre pas par la route habituelle où il est tombé. Où il s'est cassé la figure, etc., le téléphone va le détecter automatiquement. Alors évidemment, certaines adultes vont se dire, tiens, ça peut m'être aussi également utile, parce que tituber, tomber, etc., c'est typiquement quelqu'un qui est bourré.
Genre des déductions à lycée.
Non,
c'est pas vrai. Quel génie. J'espère que vous le noterez bien.
Alors là, il s'agit d'un téléphone spécial qui qu'il faut acheter, mais vous savez qu'aussi que nos enfants, ils ont plutôt l'habitude de piquer nos téléphones. Ils utilisent ça comme joujou, on leur donne le téléphone, etc. Et en plus, ils connaissent la plupart du temps notre code. Aujourd'hui, on a des systèmes de reconnaissance faciale, reconnaissance des empreintes digitales, mais les gamins, ils arrivent à ouvrir le téléphone quand même. Eh bien, on a mis au point un système pour éviter que des enfants puissent utiliser notre téléphone. Et le truc est assez malin, c'est qu'on utilise la taille de la trace du doigt qui est laissée sur le téléphone pour pouvoir le bloquer automatiquement. D'accord. C'est-à-dire qu'on donne son téléphone à un enfant, comme évidemment il a des plus petits doigts.
Il y a des enfants qui ont des gros doigts. C'est pas. je peux pas dire un truc au premier degré, je peux pas être sincère. Il faut tout de suite que dans ma bouche ça soit sale.
Mais c'est
désolé.
On se demande pourquoi.
Non mais en tout cas c'est extrêmement malin parce que plutôt que de mettre des restrictions avec des codes qu'on peut toujours contourner, et bien là le système automatiquement va détecter la taille du doigt et si c'est un doigt qui est trop gros, il va supposer que trop petit plutôt. Bah, il fait rire depuis tout à l'heure. Qui est trop petit, il va supposer que c'est un enfant et donc il va désactiver certaines fonctions.
Et pour les réseaux sociaux, mon cher Anissa, il y a une petite solution.
Alors pour les réseaux sociaux, alors aujourd'hui on a un vrai problème, c'est que les réseaux sociaux normalement ils sont interdits aux moins de 13 ans. Tous les réseaux sociaux sont strictement interdits aux moins de 13 ans. Or on sait tous qu'il y a des enfants très très jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Vous connaissez certainement TikTok, où il y a des enfants de 8-9 ans qui sont sur TikTok. Et bien TikTok a commencé sous la pression à rajouter des fonctions pour bloquer certaines parties de TikTok. Par exemple, on peut fliquer son enfant sur TikTok aujourd'hui. On peut restreindre les images qu'il voit. Pareil, analyse d'images, dès qu'il y a des images dénudées ou des clips un peu spéciaux, hop, ils suppriment automatiquement la vidéo. On peut aussi donner une limite d'heure, c'est-à-dire que vous avez le droit d'aller sur TikTok pendant 30 minutes, 1 heure, 45 minutes par jour. Sur Instagram, ça arrive également. Vous savez que Instagram est en train de supprimer aujourd'hui les likes, c'est-à-dire de masquer les likes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un peu une course aux likes aujourd'hui. Beaucoup de gens hésitent à mettre du photo parce qu'ils se disent « Ah, il ne va pas y avoir assez de likes. »
Et donc, une compétition chez les petits, enfin chez les jeunes, j'imagine, ils se disent « Ah, moi j'ai moins de likes, tout ça, ça doit être
horrible. »
Et
puis,
dans la cour du lycée.
Il y a même des psychologues qui se sont rendus compte que le like fonctionnait un peu comme un aspirateur à dopamine. Ça veut dire que dès qu'on a un like, on a une espèce de bouffée de positive à l'intérieur.
Et on devient déprimé.
Mais à l'inverse, si on n'a pas de like, on peut être déprimé.
Ah bah, on va poser la question à Olivier Rousteing parce que vous êtes une grosse star d'Instagram. Combien de 5 800 000 abonnés. Est-ce que quand on a 5 800 000 abonnés, on s'inquiète du nombre de likes sur Instagram comme quelqu'un qui démarre, ou est-ce que vous vous en foutez aujourd'hui? Vous regardez quand même si chaque photo marche bien?
Non, j'aime bien regarder. Après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que dit Anissé, c'est qu'il y a une course poursuite au like. C'est-à-dire que quand on voit que quelqu'un n'a pas liké la photo, la vidéo, on se remet vite en question. Mais vous savez, l'autre jour, j'ai dansé chez moi sur les démons de minuit et je trouvais ça génial. J'avais 450 000 views, dont Neymar qui a liké. J'ai dit une démence. Neymar les images. On est bien parti. Mais non, je trouve que c'est vrai. Il y a une course poursuite au like et dès qu'on a moins de likes, on se sent moins aimé en fait. Faut dire la vérité.
Surtout, elle nous pousse à la mise en scène de nos vies.
Mais oui,
parce que Olivier, je l'imaginais pas comme on le découvre dans le documentaire, par exemple, notamment cette solitude. On n'a pas le temps de parler de tout ça, mais il faut voir le documentaire Wonderboy pour le découvrir différemment d'un fil Instagram où il se met en avant. C'est normal. Et les créateurs de mode, on comprend la démarche, mais c'est qu'une démarche en fait. C'est pas vous.
Mais ça peut vite devenir un piège aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait, on devient un peu l'objet de ce que veulent voir les gens de nous-mêmes. Donc, en effet, cette course poursuite au like, elle nous pousse aussi à montrer une image qui plaît aux gens. Et c'est vrai que le documentaire, pour moi, c'était important de montrer une autre facette parce que j'étais pas tout le temps en train de boire du champagne à Los Angeles. C'était aussi montrer, voilà, je viens de là, je suis comme ça.
Parfois, il boit aussi du champagne à New York. Il faut rappeler la vérité. Il faut rappeler la vérité aux gens qui nous écoutent. Merci Anissel Bida. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
Je vous connais par cœur, cher auditeur. Vous sifflotez gaiement en nous écoutant sur le chemin du retour. Bientôt, vous allez arriver chez vous, franchir le perron et réaliser soudain avec effroi que vous avez complètement oublié de faire les courses.
Ah non, de Dieu, non. Bordel de merde.
Inutile pour autant d'être vulgaire. D'autant que j'ai anticipé votre étourderie, votre recette de dernière minute, délice in extremis, arrive. Et j'ai un petit secret pour vous, Eva. L'asperge est déjà de retour.
Oh là là.
Non, ça ressemble à un message codé, mais c'est juste une info, en fait.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipe sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe sauvage entre dans sa dernière ligne droite. Le suspense ronge nos 4 journalistes en lice pour le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter, sachant que le vote de nos invités du jour comptera triple. Des invités toujours sympas et bienveillants, comme le chef Michel Sarran, mercredi dernier. Que fait un chef lorsqu'il est malade? Est-ce qu'un chef malade peut aller travailler? C'est-à-dire que nous, par exemple, on peut exercer notre métier dans un sale état.
De toute façon, vous êtes malade, là, tout ça.
Aujourd'hui, on est ravis de passer l'après-midi avec le styliste Olivier Rousteing et la réalisatrice Anissa Bonnefond pour évoquer Wonder Boy, documentaire nommé au César vendredi. Alors, Olivier Rousteing, vous êtes en pleine préparation de votre prochaine collection. On en parlait, vous en avez déjà révélé, d'ailleurs, une partie de la playlist musicale de cet événement. En exclusivité encore pour Europe 1, vous pouvez nous dire à quoi ça va ressembler? Je ne sais pas s'il y a une couleur dominante, s'il y a, je ne sais pas, un parti pris esthétique particulier, et on pourrait le savoir en exclusivité avant toutes les autres radios.
Ça sera un hommage à Bordeaux, en fait.
Un hommage à Bordeaux, d'où vous venez?
À ma ville, en fait, natale. Donc ça va être un hommage à la bourgeoisie bordelaise et au code qu'on doit casser, voilà.
Il y a Alain Juppé qui voulait vous défiler. Pardon, je suis désolée.
Je l'aime bien, Juppé, moi.
Alain Juppé, défilé pour Valmain. Ça serait lié. Mais c'est presque une idée rock'n'roll.
Elle
est transgressive. Anissa Bonnefond, maintenant que vous êtes amie, on peut le dire, avec Olivier Rousteing, quoi qu'il en dise, est-ce que vous vous habillez différemment? Est-ce que quand vous êtes avec lui, vous faites attention à ce que vous mettez?
Non, pas quand je suis avec lui. C'est pas parce que je suis avec lui.
Mais la chance, elle n'a pas mis son décolleté. D'habitude, il est plus long que le mien. Hein.
Et ceux qui nous suivent sur Europe1.fr voient de quoi ils parlent.
Mais... Non, mais vous n'avez pas répondu à Anissa. Est-ce que
non,
vous...
en fait, non, je ne m'habille pas différemment. Après, j'ai eu la chance d'avoir plein de beaux cadeaux quand même. Donc, du coup, c'est cool.
Une dernière question, Olivier Rousteing, sur évidemment ce qu'on n'imagine pas quand on voit votre fil Instagram et pas Facebook, vous êtes jeune. C'est le côté solitaire du métier de créateur qui vous emmène partout dans le monde. Et il y a des moments où vous vous retrouvez face à une certaine solitude. Et même Anissa m'a expliqué en antenne l'avoir découvert et avoir été surprise de ça. Vous êtes nombreux dans ce cas-là ou c'est vous particulièrement, votre manière de travailler, votre manière d'être qui fait que vous êtes souvent seul?
Je pense que c'est le prix à payer quand on est très visible, en fait. Je pense qu'il y a d'autres designers qui sont beaucoup moins seuls parce qu'ils sont moins publics, en fait. Ils sont moins connus. Donc, moi, aujourd'hui, parce que je suis connu, je pense que c'est aussi les travers d'Instagram, etc. C'est qu'on est tellement visible qu'on fait moins confiance aux gens parce que les gens nous voient, nous reconnaissent, on va en soirée, on sait plus facilement reconnaître. Donc oui, la solitude s'est créée au fur et à mesure de ma carrière.
Vous faites quand même un peu la fête parfois.
Ça m'arrive.
Oui, ça le fait.
Avec Neymar.
Il se prépare pour les Césars vendredi soir et son défilé vendredi matin. Anissa Bonnefond et Olivier Rousteing sont sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
En dépit de ces bonnes résolutions que vous étiez juré de tenir, vous avez encore fait des excès ce week-end.
Moi, samedi, j'ai trop picolé. Hein. Putain, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mis une heure pour rentrer chez moi.
Eh bien, détoxifiez-vous avec des asperges. C'est un petit peu tôt. Non, j'arrive pas.
C'est dégueulasse.
Ça va trop loin, ce lancement. Bon bref, Délice et l'extrémiste arrive. Restez avec nous juste après Étienne Dao. Des attractions, des astres sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui cajole vos neurones, bichonne vos zygomatiques et trouve encore le temps d'exciter vos papilles. Chaque soir, à l'heure où vous réalisez en vous giflant d'agacement que vous avez une fois de plus totalement oublié de faire les courses, notre expert en gastronomie... Ça, c'est peut-être... Alors là, on pourrait peut-être élire le... Il y a les Césars vendredi, mais ça pourrait être le son le plus pourri de gifle que vous m'avez trouvé depuis le début de la saison. Est-ce que c'est une gifle, ça? C'est une tapette à moustique.
J'ai une suggestion, c'est que je vous en mets vraiment une, studio,
D'accord.
Pour qu'on ait un vrai bruitage.
Alors on fasse ça à la toute fin d'émission, sinon d'accord. Je vais être tout rouge. Oui. Attention, je fais quand même attention à mon style aujourd'hui particulièrement. Notre expert en gastronomie de crise, Olivier Pouls, sorte d'antithèse physique de notre invité Olivier Rousteing, vous livre une recette express facile et goûteuse. Chaque soir, une recette qui souvent, je dis bien souvent, met l'eau à la bouche de l'invité. Parce que bon, parfois aussi, on reçoit Michel Sarran. Pourtant, elle avait l'air bonne, sa carbonate de canard.
Et puis, on va tout simplement récupérer nos cuisses de canard, faire réduire encore un tout petit peu la sauce de manière à la corser. Et puis, il n'y a plus qu'à servir avec une délicieuse bière. Et on a un pont entre la Belgique et Toulouse. Est-ce que vous achetez la recette?
Franchement, non.
Bonjour Olivier Pouls.
Oui, bonjour. Je tiens à dire que Michel Sarran n'y connaît pas grand-chose en cuisine, en réalité.
Alors, qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui, mon cher Olivier?
Mais écoutez, aujourd'hui, miracle de la nature. Il ne vous aura pas échappé, mes chers amis, que vous vous êtes pratiquement baladé en t-shirt tout au long du mois de janvier. Mois de janvier qui a d'ailleurs été l'un des plus chauds depuis qu'on mesure la température. Et ça a évidemment une conséquence sur la production d'un certain nombre de légumes. Et qu'ai-je vu au marché, pas plus tard que ce week-end en me baladant, les premières asperges avec un mois d'avance, figurez-vous.
Miracle de la nature, c'est plutôt inquiétant, Olivier.
Oui, alors miracle ou effectivement drame du réchauffement climatique, on peut effectivement voir les choses de deux manières. Mais en tout cas, moi je ne me suis pas gêné, j'ai acheté des asperges et je vais vous proposer une recette extrêmement simple et goûteuse d'asperges, alors blanches ou vertes, parce que les deux sont déjà là. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Pourquoi l'une est blanche et l'autre est verte?
Bah, il y en a une qui est blanche et l'autre qui est verte, par ça je sais pas dire
plus. C'est une question de une qui est plus mûre que l'autre? Pas.
Non, en fait, il y en a une qui pousse à l'intérieur du sol, elle pousse dans le sol, donc elle ne voit pas la lumière, c'est la blanche, alors que l'asperge verte, elle pousse à l'extérieur et donc elle génère de la chlorophylle. Donc elle verdit.
Très bien, Olivier. Alors laquelle est la meilleure?
Alors la blanche est un peu plus douce, la verte est un petit peu plus corsée, on va dire, avec un goût végétal un peu plus assumé. Moi, j'aime bien mélanger les deux, faire un méli-mélo de blanche et de verte avec une petite sauce extrêmement simple que je vais vous proposer. Mais tout d'abord, pour la cuisson des asperges. Là aussi, je vais peut-être vous surprendre, mais grâce à mon ami le chef Yves Candebordes, j'ai découvert une manière absolument facile, rapide et inratable de cuire les asperges. C'est de
le micro-ondes.
Tout simplement au micro-ondes, figurez-vous.
Non, c'est vrai. Mais non, oui. Mais tu te fous de moi, Poule, c'est censé être l'expert gastronomique, tu nous mets les trucs dans le micro-ondes. C'est scandaleux.
Eh bien, je peux vous garantir qu'une dizaine d'asperges posées sur une assiette et enrobées dans un petit sopalin que vous laissez pendant 7-8 minutes dans votre micro-ondes puissance maximum, la cuisson est parfaite. Et en plus, elles ne prennent pas l'eau comme souvent quand on cuit les asperges dans un grand volume d'eau. C'est une cuisson qui est redoutable et je vous engage à essayer de la faire.
Ensuite, mayonnaise Amora et c'est bon. Là, on est terminé. Bravo, Pouls.
Non, petite sauce maison hyper facile, du fromage blanc frais. En plus, ma sauce, vous allez voir, est extrêmement légère pour démarrer la semaine. On se détoxe complètement. Fromage blanc frais, beaucoup d'herbes, de la ciboulette hachée. On peut rajouter un petit peu de persil. Un joli trait de vinaigre de vin vieux. Si vous n'avez pas de vinaigre de vin vieux, vous pouvez mettre un joli trait de citron. Ça marche aussi. Du sel et du poivre, et vous avez une sauce légère qui a du goût et qui va en plus respecter la belle délicatesse de vos asperges. C'est emballé en moins de 5 minutes, cuisson micro-ondes compris.
Et respecter la délicatesse de l'asperge, ça c'est quand même très très important. Merci beaucoup Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Le moment fatidique approche. Qui sera élu? Chroniqueur du jour, nos invités Olivier Rousteing et Anissa Bonnefond vont se concerter. Ils ont le trombinoscope de nos journalistes sous les yeux pour faire leur choix. Laissons-les réfléchir. Si jamais vous avez une question sur tel ou tel chroniqueur, comme Jarry avait eu sur Anissa Mida, n'hésitez pas, Eva peut vous répondre.
C'est un chroniqueur quoi, lui?
Technologie.
Illégal?
Non, officiellement.
Officiellement, car officieusement, seule la victoire compte. Émoticône clin d'œil.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Ils étaient quatre à se déchirer au service de votre culture G. Quatre journalistes sélectionnés parmi les meilleurs de notre station. Quatre journalistes qui, je le sens, ont particulièrement impressionné notre invité Olivier Rousteing.
Il y a des contrats qui ne vont pas se renouveler, je vous le dis. Non.
Le pire, c'est que c'est vrai. C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier devant nos invités Olivier Rousteing et Anissa Bonnefond, dont le documentaire Wonderboy est en lice pour le César du meilleur doc vendredi. Anissa Mbida, pourquoi nos invités devraient-ils voter pour vous?
Mais parce que quand on a 5 millions de followers sur Instagram,
800 000,
on a une certaine responsabilité. Et quand on est parent aussi, on a une certaine responsabilité vis-à-vis des enfants. Et donc, j'ai proposé quelques petites solutions pour aider les grands Instagrammeurs et les parents à régler un peu ce problème.
Fred Goetti, pourquoi voter pour vous?
Alors, ok, les théories complotistes le disent, on n'est pas sûr que Neil Armstrong ait vraiment marché sur la Lune. En fait, si. Mais moi, à travers un livre magnifique et un vieux 78 tours avec des notes de musique éternelles, je vous ai expliqué, je crois, comment Louis Armstrong avait décroché la Lune.
Oh. Alors lui, alors, il se la joue
c'était le roi du jazz, beau, mais moi j'ai besoin de votre vote pour monter sur le trône.
C'est très beau ou c'est très niais. On laisse nos auditeurs décider. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous?
Pas pour moi, il faut voter. Cette chronique défend la langue française et quelque part, en votant pour moi, vous votez pour la langue de Molière, vous votez pour Molière.
C'était ça le truc que tu avais réfléchi avant et tu disais que ça allait être super?
Exactement.
On le note, nos auditeurs l'auront entendu. Virginie Fulpin, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Si vous avez encore envie de voir des joueurs de tennis intelligents, je pense qu'il faut aller dans mon sens.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah bah alors, victoire écrasante d'Axel de Tarlé.
Axel deux de points. Tarlé.
Mais oui,
mais
deux
il
points.
Pas gagné depuis mais oui, 1992.
Deux points déjà.
Incroyable.
Ouais, ouais,
ouais. Axel remporte les deux points du public. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Anissa Mbida parce que mon fils bientôt aura l'âge d'aller sur ses applications. Et
il y est déjà, je vais vous dire.
Et du tour. Attends, il y a Astérix. Mais vous le savez, ici, ce sont les invités qui ont le dernier mot. Anissa Bonnefond, Olivier Rousteing, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour. Vous avez trois points chacun que vous attribuez à une seule personne.
Ah ouais. Ah. Moi, parce que je suis nostalgique et que j'adore Louis Armstrong, Fred, je vote pour vous.
Alors, 3 points pour Fred, qui prend la tête. Olivier, attention, tout se joue maintenant.
Mon côté intelligent dirait peut-être Axel de Tarlet quand même, parce que c'est bien cette histoire de la langue de Molière. Mais finalement, je voterai pour Anissé, quoi.
Ah, et c'est Anissé qui remporte la 119e journée de l'équipe et sauvage. On remercie chaleureusement nos invités. Anissa Bonnefond, votre documentaire Wonderboy, la quête identitaire d'un des plus jeunes directeurs artistiques d'une maison de haute couture de l'histoire, est nommé au César vendredi. Et vendredi, Olivier Roustin, ça sera votre nouveau défilé pour Balmain. Collection prête à porter, vous me faites 15% sur un suite.
Ah ben oui, bien sûr. Oh,
merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Virginie Pulpin, Axel de Tarlet, Fred Wadi, Anis Mbida, Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir.